croisés. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour et bienvenue dans ce 19e numéro de Croisée où je reçois le contre-ténor le plus étonnant d'une génération qui en compte beaucoup et pas des moindres, Max-Emmanuel Sencic, non seulement parce que son actualité discographique est particulièrement riche, pas moins de 3 parutions cet automne chez Virgin Classics, mais aussi parce qu'il sera incontournable sur les scènes lyriques françaises durant toute la saison. Max-Emmanuel Sencic, ce fut d'abord un choc visuel, peut-être même une forme de hiatus. La pochette de son premier disque en tant que contre-ténor ne pouvait en effet manquer d'étonner. Un jeune homme tout de blanc vêtu, arborant un t-shirt parsemé de perles, pose sur un fond néo-baroque, en haut à droite, en petits caractères, le nom de Domenico Scarlatti, suivi de la mention Cantate d'Amore, répertoire assurément peu fréquenté et exigeant, puis en majuscule, le nom du chanteur, puis de l'ensemble. C'est une curiosité, pas tout à fait musicale peut-être, qui, je l'avoue, m'a poussé à acquérir ce disque. Et là, stupéfaction d'une voix inouïe, d'un bel cantisme inespéré chez un falsettiste, mais pas seulement, timbre profond et profus, aigu, rayonnant, facile et qui couronne la ligne sans cassure, musicalité probe, sans maniérisme ni facilité. Et jamais on n'avait entendu parler de ce phénomène. Ce qu'on découvrait là était le résultat d'une mue, un rien tardive peut-être, de ce sopraniste surdoué, élevé à la rude école des petits chanteurs de Vienne. On allait entendre ce qu'on allait entendre, chaque année un disque de cantate chez l'éditeur Capriccio, une touche d'extravagance vivaldienne avant l'austérité de Caldara. Petit à petit, Sencic fait parler de lui jusqu'en France, où le terrain est occupé, accaparé même par une autre étoile montante, Philippe Jarouski. Enfin, il est en concert à Paris, Stabat Mater de Pergolèse, sous la direction de Christophe Rousset, qui s'apprête à le diriger en automne et du couronnement de Poppée au Capitole de Toulouse. Nous sommes en 2006. Nouveau hiatus, les extravagances sont réservées aux pochettes de ses disques. Max-Emmanuel Sencic est tout sauf un animal de cirque, un artiste qui semble timide même, mais impossible de résister à la profondeur de l'instrument, dans automne et surtout chanté comme jamais. La machine dès lors s'emballe, le nom du contre-ténor revient plus fréquemment dans les programmes de concert et il passe chez Virgin Classics, chez qui enregistre justement Philippe Jarouski. Inutile de les opposer, ces deux-là se complètent. Premier disque, véritable bombe dans un milieu musical cloisonné, Sencic ose un récital entièrement consacré à Rossini, marchant sur les plates-bandes des contraltis féminins, certes travestis, pour mieux briser le tabou. L'année suivante, dans un Sant'Alessio interdit aux femmes conformément à l'usage romain, il va plus loin encore dans la culture de l'ambiguïté en incarnant l'épouse délaissée de Philippe Jarouski. Mais l'heure des héroïques conquêtes est venue, c'est Faramondo et puis une anthologie endelienne pour mezzo-soprano, après tant de falsettistes égarés dans la tessiture inaccessible d'alto, enfin un qui s'assume tel qu'il est, et la voix chaque jour plus agile, ductile, pulpeuse, vertigineuse. En cette rentrée 2011, qui est définitivement la sienne, pas moins de 3 disques, Farnace de Vivaldi, Ezio de Gluck, et des duos de chambre en compagnie du frère ami et sous l'égide attendrie de William Christie, avant d'entamer une superbe saison sur les scènes lyriques françaises, qui s'achèvera par une version scénique de Farnace. Alors après Faramondo, une rareté endelienne, pourquoi avoir choisi Farnace ?
Waouh, quelle entrée! Je suis absolument. Continue! Non. Pourquoi? Au début, j'ai eu envie de faire Giustino, mais parce que Giustino s'était déjà enregistré chez Virgin, on a décidé de faire Farnace dans une nouvelle version. Parce que là, il existe deux versions, un de Pavia et un de Ferrare. Et la version de Ferrare n'était jamais enregistré et aussi jamais représenté dans la scène. Et pour ça, c'était très intéressant pour nous de l'enregistrer. Et aussi, par rapport à la tessiture, la version Farnace est la roule-titre écrite pour un mezzo-soprano et la rôle du Pavi, c'est écrit pour un ténor. Donc c'était évidemment normal pour moi aussi de choisir la deuxième version, moins connue. C'était ça.
Et justement, qu'est-ce qui fait les différences entre ces deux versions, hormis ce changement de tessiture, entre la version de Pavi et la version de Ferrare? On sait que Vivaldi a beaucoup repris cette œuvre, Farnace, tout au long de sa carrière, et la version de Ferrare représente une sorte d'aboutissement, mais qui en plus est incomplet, puisqu'il manque le troisième acte.
Oui, la version de Ferrare, consiste seulement de deux actes, et le troisième acte, il manque. Mais dans le premier et deuxième acte, presque tous les personnages ils ont différentes tessitures. C'est sauf Celinda et sauf Tamiri. Notamment, Tamiri était chantée par Anna Giraud, l'accompagnante de Vivaldi, et elle a toujours chanté Tamiri, donc ce rôle n'a jamais changé vraiment. Mais tous les autres tessitures, ils ont changé. Comme ça aussi, les airs sont différents que dans la version de Pavi. Et aussi, les récitatifs, ils ont été réécrits encore.
Le personnage de Farnace est un personnage qui a vraiment l'honneur chevillé au corps, hein. Il veut se suicider plutôt que d'accepter la défaite. C'est assez loin de notre sensibilité contemporaine. Comment on se jette dans un personnage
Non,
comme
c'est
ça?
pas, je crois pas que c'est très très loin de notre perception contemporaine, parce que des choses similaires, ça passe aujourd'hui aussi. Si on regarde l'histoire, c'est en fait une tragédie familiale. C'est quelqu'un qui est marié avec une femme qui est
La fille.
la fille de quelqu'un qui était tué par le père de Farnace. La mère de cette fille, elle voulait se venger. Elle essaye de détruire lui et son vie. Elle fait une alliance avec les Romains et elle fait une grande guerre contre Farnace. Donc voilà, et ils perdent tous. Il est trop fier d'accepter le défi et donc il voulait se tuer. Et il demande de sa femme et de se tuer aussi. Et il voulait le fille tuer aussi. Donc si on regarde aujourd'hui des gens qui, pour exemple, perdent tous avec l'argent, le crédit ou la spéculation, donc les gens se tuent aussi, même aujourd'hui, parce qu'ils sont trop fiers d'accepter d'être pauvres encore, de n'être pas les millionnaires, les billionnaires, tout ça. Ou des gens qui, voilà, sont dedans un grand scandale politique, ou voilà.
Mais ça peut paraître quand même très cruel lorsqu'il demande à sa femme de tuer leur fils.
Ça, c'est le dilemme de cette opéra, c'est de questionner la fierté, qui est un peu, comme on s'est dit, quelque chose indoctriné.
Oui.
Et cette doctrine de notre société se trouve partout, dans chaque idéologie. Où les gens, par exemple les islamistes ou les nazistes qui ont se tué après quand le Troisième Reich était détruit, les gens ils ont se tué sa femme
Des
les
enfants.
enfants et tout ça. Donc ça sont les résultats d'une idéologie mauvaise. Et c'est exactement ça. De quoi se passe dans cet opéra? On thématise et on questionne une idéologie en général par rapport de la question de l'amour et de Tamiri, qu'elle voulait qu'on parle, on vivre en paix, on s'arrange ensemble et tout ça. Donc, tout ça sont les deux forces qui montent et qui se battent en même temps dans cet opéra avec les différents personnages.
Mais finalement, Farnace n'est pas un personnage très sympathique.
C'est difficile de dire s'il est sympathique ou non, parce que je crois que c'est un personnage rigide, quelqu'un qui était déjà indoctriné de croire à ça, qu'est-ce qu'il croit. Mais dans le deuxième acte, où est-ce qu'il chante Perdona figlio amato, ou où est-ce qu'il chante Gelo d'ogni vena, là il montre son fragilité de son caractère par rapport de cette rigidité, et donc Vivaldi il montre aussi dans cet opéra que même les gens qui semblent très durs ou très très mauvais, ils ont souffrance en même temps. Et là, il y a beaucoup de vérité, parce que dans les opéras de Vivaldi, il travaille beaucoup dans ses librettos, dans les questions psychologiques. Les sujets, son sujet sont très naturalistes en même temps. Il met tout ça dans un vêtement aristocratique, presque, mais l'histoire de quoi se passe devant ce symbolisme est très naturaliste. Il se traite des choses très actuelles en ce moment, en ce temps, et aussi beaucoup de choses, voilà, se passent aussi maintenant. Si on voit, par exemple, là, par exemple, c'est une tragédie familiale, Fanace. Si on voit Orlando Furioso, il se traite de la perception de l'amour et la folie dans l'amour, où est-ce que les gens voulaient être toujours jeunes. Parce qu'il se traite en fait de Alcina. Elle est pratiquement la sorcière qui voulait apparaître toujours jeune et qui se battre pratiquement jusqu'à la folie de rester jeune, attractive et toujours aimée par les hommes. Donc c'est aussi un sujet qui, même aujourd'hui, est un très, très grand sujet. Hein. On connaît tout ça, des femmes qui font les opérations, qui voulaient être toujours jeunes, et avec 50, 60 ans, c'est une tragédie pour beaucoup de femmes, aussi pour les hommes. Qui ne sont pas capables de veiller dans une manière normale. Et donc, ils deviennent fous. Et c'est un peu comme ça dans Orlando Furioso. Je crois qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans cette histoire que belle musique.
On va écouter un premier extrait, cette face humaine de Farnace qui se lamente sur la mort de son fils qu'il croit mort, que Tamiri finalement n'a pas assassiné. C'est l'air Perdona o figlio amato avec mon invité Max Emmanuel Sencic, qui est accompagné par l'orchestre I Barocchisti et Diego Fasolis à la direction. C'est un disque Virgin Classics. venons d'entendre un extrait de Farnace et d'Antonio Vivaldi dans la nouvelle version qui paraît chez Virgin Classics avec mon invité Max-Emmanuel Sencic. Quel est le défi vocal de Farnace pour un contre-ténor? Quelles sont les difficultés du rôle par rapport peut-être aux airs de Handel dans l'écriture vocale?
C'est un rôle dramatique, en tout cas, mais la difficulté, c'est que c'est, beaucoup de fois, c'est écrit dans une manière très instrumentale, comme toujours chez Vivaldi. Donc, de mettre ensemble le dramatisme et aussi la précision instrumentale dans la voix, c'est pas facile, ça.
Et c'est un opéra, vous avez dit, il y a eu beaucoup de changements de tessiture entre la version de Pavie et la version de Ferrare, mais c'est une version où il y a beaucoup de voix grave, féminine. Alors vous avez assemblé un plateau avec des voix très différentes. Où est-ce que vous êtes allé? Par exemple, il y a des chanteuses qu'on entend souvent dans le baroque. Il y a aussi dans le rôle de Tamili, Ruxandra Donos, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce répertoire.
Moi j'aime bien, comme on s'est dit, des voix qui sont expressives et qui sont un peu différentes. Je crois qu'avec Ruxandra Donos, on a une voix extraordinaire dans le rôle de Tamiri. C'était toujours pour moi très important d'essayer de trouver les meilleurs chanteurs, qu'est-ce qu'on peut avoir pour chaque production. Voilà, aussi par rapport au type de voix, à côté de la rôle qu'il chante, qu'il interprète. Parce que quelquefois, on a un très bon chanteur. Mais Vivaldi, par exemple, il a écrit les rôles pour les chanteurs qui ont interprété ce rôle. Donc, ce n'est pas assez facile aujourd'hui de dire cette soprano superbe, elle pourrait chanter tous. C'est comme ça.
C'est des rôles qui ont été écrits sur mesure pour des chanteurs en particulier.
Donc, aujourd'hui, quand on cherche des chanteurs de chanter une rôle, il y a parfois des chanteurs qui sont assez parfaits pour un rôle. Tu ne trouves pas aucune autre qui pourrait le chanter dans la même manière et dans le même esprit, parce que le type de ce chanteur est unique et c'est 100% idéal pour ce rôle. Et c'est pour ça que je suis très attentif quand je choisis mes rôles, par exemple, parce que seulement de chanter une rôle parce que c'est beau, c'est pas suffisant pour moi. Et il faut être quelque chose crédible. Et comme ça, je crois que c'est aussi, ça fait une partie du succès de cette collaboration qu'on a avec Diego Fasolis et Baroquisti, parce que nous avons toujours cherché des chanteurs et des interprètes qui sont crédibles dans les rôles qu'ils font. Aujourd'hui, quand les gens font le casting de chanteurs, il pose trop de conditions qui n'ont rien à faire vraiment avec les rôles et avec le type de rôle, mais plus de la rôle. Si le chanteur est connu ou un star, s'il est beau ou non, d'où il vient ou elle vient, ça c'est pas important pour moi. Pour moi, c'est vraiment important le voix et l'interprétation et le type.
Et il y a eu aussi, avec l'enregistrement de Falamondo, une grande découverte, c'était Tico Fasolis et Ibarocchisti, des musiciens que les initiés connaissaient, mais qui étaient un peu cantonnés à leur Suisse italienne, et puis qu'on a vu tout d'un coup exploser comme ça parmi les autres ensembles baroques. Donc ils ont fait aussi avec vous votre récital Handel, et puis maintenant Farnace. Et qu'est-ce qui vous a plu dans la manière de diriger de Diego Fasolis pour que vous ayez envie comme ça d'initier une collaboration à long terme avec lui?
Il est énormément bien, il est vraiment, ça qu'est-ce qu'il fait est superbe, il fait des choses super bien, donc je crois qu'il mérite d'être perçu par la public, il mérite de faire des projets. Ou est-ce qu'on peut découvrir la musique encore et avoir une nouvelle énergie dans cette scène qui, en fait, la scène de la musique est très classique, très petite, on se pratiquement connaît, tout, on sait tout connaît. Et même dans la scène baroque, c'est même plus petite que ça. Je crois qu'il faut avoir un peu plus de choix et un peu plus de différence, parce que je perçois qu'il y a un énorme intérêt pour la musique baroque, mais en même temps, il n'y a pas suffisamment de programmes différents. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'opéra? C'est, comme je dis toujours, c'est toujours Jules César et Poppée qui est fait comme la mise en scène d'un opéra baroque. Si un opéra décide de faire quelque chose, mais c'est très rare, comme à Strasbourg par exemple, où est-ce qu'on dit, oh, on y va faire une opéra peu connue par Vivaldi. C'est un grand risque pour les grands opéras, mais en même temps, je suis convaincu que c'est une direction pour la future de la programmation culturelle de donner plus en plus une plateforme pour des opéras et les pièces un peu moins connues et d'enrichir la scène culturelle en Europe.
Ce qui est très intéressant aussi dans la production de Farnace et qui va être présentée à Strasbourg, c'est que la mise en scène est assurée par Lucinda Childs, qui est à la base une chorégraphe. C'est plutôt même surprenant pour ce type d'opéra.
Oui, j'étais aussi très surpris par cette choix d'avoir Lucinda Childs comme la réalisatrice de cette production. Mais je me suis dit pourquoi pas. C'est quelque chose certainement très intéressant et je suis déjà très très impatient de travailler avec eux, avec elle et avec la compagnie d'elle. Et je crois que ça sera quelque chose de différent, nouveau. On verra. C'est difficile de dire en futur comme des choses roulent, mais elle est un grand artiste, donc j'ai aucun doute que ça sera top.
On va faire un bond de 11 ans. On va parler de Ezio, de Gluck. Vous êtes aussi à l'affiche de cet enregistrement. Alors, Gluck, on connaît ses opéras réformés, notamment Orfeo, qui a été créé à Vienne en 1762, puis qui ensuite a été repris à Paris dans une autre version. Mais il y a eu une première période de Gluck qui écrivait des opéras seria, comme ceux de Vivaldi, de Handel, sur des livrets de métastases. Ici, vous interprétez de nouveau un rôle de méchant. Enfin, il n'est pas très gentil, l'empereur Valentinien.
Ouais, Valentinien, il est vraiment fou, hein. Moi, je trouve Ezio, c'est une des meilleures opéras de Gluck. Très belle histoire de Metastasio. Non, j'aime beaucoup cet opéra. C'est vraiment un de mes opéras préférés de Gluck. Plus que l'Orphée, absolument.
Et est-ce qu'on sent déjà... Enfin, il y a beaucoup de musique que Gluck va réemployer dans ses opéras ultérieurs, ceux d'après la Réforme. Est-ce qu'on sent déjà sa volonté de passer au-delà des formes un peu éculées, peut-être
Non, pas toujours, parce que c'est vraiment une opéra seria. Là, qu'est-ce qu'il crée? C'est dans une forme très traditionnaliste. Je crois qu'il n'y a aucun, comment c'est dit, signe de son opéra réformé. Mais en tout cas, c'est une opéra extraordinaire, comme l'opéra seria, absolument. C'est simplement très très bien fait. Il y a beaucoup de très belles mélodies.
On va écouter pour se faire une opinion le premier air de Valentiniano qui n'est pas forcément le plus représentatif de son caractère puisque là il est en train de chanter les
Oui,
louanges de
oui.
Ezio et qu'ensuite Ezio va devenir son rival, son ennemi et qui va vouloir le voir abattre. Donc c'est l'air Se tu la reggi al volo qui est accompagné ici par Il complesso barocco de Alan Curtis. Dans cet Ezio de Gluck, et mon invité, Max-Emmanuel Sencic, interprète le rôle de Valentinien.
Thank you.
C'était un extrait d'Ezio de Gluck qui va paraître le 17 octobre chez Virgin Classics avec Alan Curtis et Il Complesso Barocco. On va parler maintenant de votre album de duo avec Philippe Jaroussky. Alors on a souvent l'habitude de mettre en rivalité les chanteurs d'un même registre. Là, on a plutôt choisi de vous unir. Vous chantez en duo, vous étiez déjà la femme de Philippe Jaroussky dans le Sant Alessio. Ici, c'est un programme de duo et cantate de chambre du début du XVIIIe siècle, avec des compositeurs qu'on connaît, surtout Bononcini, parce qu'il était le rival de Handel à Londres et qu'il accusait souvent Handel de plagiat. Il y a aussi Benedetto Marcello, qu'on connaît surtout pour son pamphlet où il s'attaquait à Vivaldi, Il Teatro alla Moda. Il y a aussi de la musique de Scarlatti, Alessandro Scarlatti et de Francesco Bartolomeo Conti. Comment est-ce que on élabore un programme à deux?
Très difficile. C'était vraiment une des productions les plus stressantes de ma vie parce que c'était très difficile de trouver les duos qui ont été dans les tessitures qui convenaient à nous deux. Parce que nous avons tous les deux la même tessiture, même si les gens pensent qu'il est plus haut que moi, mais c'est seulement la couleur de son voix qui est différente. Mais, donc là, c'était vraiment pas facile. Et dans la littérature baroque, j'ai par chance trouvé un contact d'une admiratrice de Philippe Jaroussky, Suzanne Kessler, qui était un musicologue, et qu'elle a pratiquement aidé nous de trouver un énormément nombre des cantates en duo. Et de cet nombre de je ne sais pas, 200, 300 cantates, nous avons fait un choix ensemble de 10 œuvres qui ont été acceptables pour tous les deux. Et enfin, on a réussi de l'enregistrer, de le faire en concert. Mais c'était, en tout cas, c'était pas facile.
Et est-ce que ces cantates étaient originellement destinées à des castrats
Oui et non. Ça on ne peut pas dire parce que, bien sûr, quelquefois, le rôle masculin dans la tessiture alto mezzo est sûr que c'était chanté par des castrats. Mais aussi en Venise, quelquefois, les femmes, elles ont chanté aussi les rôles des hommes. Donc, on a très peu d'informations qu'ils ont été les chanteurs des cantates, parce que cette musique, c'était fait pour les différentes fêtes privées dans les maisons, la musique de chambre, voilà. Donc, ce n'était pas dans une très grande attention publique. Et c'est un mystère. Donc, il reste à nous maintenant de découvrir cette musique, mais on peut seulement imaginer qui a chanté cette musique.
Et est-ce que l'écriture est différente des opéras de l'époque?
Non, c'est pas vraiment énormément différent. C'est la cantate, c'est un opéra en miniature. Et aussi dans la musique de chambre, on trouve toujours une pathos, une beauté qu'on n'en trouve pas toujours dans l'opéra. À l'opéra, il y a toujours une mesure ou une style qui était suivi par tous les compositeurs.
Ouais.
Mais dans la musique de chambre,
c'était plus expérimental.
Exactement. On a trouvé toujours plus en plus la musique expérimentale, parce que là, les compositeurs, ils ont eu plus de liberté de s'exprimer. Et comme ça, c'était pour moi aussi intéressant de plonger dans ce répertoire.
Comment s'est fait le travail pour marier vos voix? Vous avez des manières de chanter qui sont très différentes.
On s'est mettés ensemble, on a travaillé très dur d'arriver, d'avoir une bonne résultat, enfin. Je crois que le résultat est maintenant très très bien. Voilà, Philippe, il s'est occupé beaucoup de la question des dakapi, parce qu'il a une énormément grande expérience avec ça. Il est beaucoup plus musicien que moi dans cette matière. Et moi, j'essayais de m'adapter de cette musicalité qu'il a investi dans cette production. Et de mon côté, moi, j'essayais d'investir un peu plus de tranquillité dans tout ça, pour donner un peu d'un fondamento pour tout ça. Et voilà, William Christie, les Affleurissants, ils ont aussi énormément beaucoup d'expérience dans la musique, dans la musique baroque, autour le début du XVIIIe siècle. Et comme ça, on s'est mis ensemble, chacun a mis quelque chose de soi, et comme ça, c'est un mosaïque maintenant, qui me semble très très beau.
On va écouter un extrait de ces duetti. C'est plus un air à deux qu'un duo. Quando vego un usignolo, presque un air en écho. Ce sont donc deux contre-ténors, Philippe Jaroussky et Max-Emmanuel Sencic, dans cet air de Francesco Bartolomeo Conti, accompagné par Les Arts Florissants et William Christie. On vient d'entendre Quando vego un usignolo de Francesco Bartolomeo Conti, un air à deux extraits du nouvel album commun à Max-Emmanuel Sencic et Philippe Jaroussky, Duetti. Un autre duo à venir, un duo inédit, pas au disque, mais en concert, celui avec Nathalie Stutzmann.
Tout à fait.
Alors, parlez-nous un peu de cette aventure.
Diva et castratio, castrativa. Parce que, je sais pas comment s'appelle cette programme.
C'est vrai qu'il y a eu... vous parliez des sexes qui souvent étaient inversés sur les scènes vénitiennes. Il y a eu cette fameuse aussi cantate de Hasse, Marc-Antonio et Cléopâtre, où Farinelli interprétait Cléopâtre et la contralto Vittoria Tesi interprétait le rôle de Marc-Antoine.
Oui.
Alors, sur quoi se fonde ce duo? Est-ce que justement vous allez jouer de ces ambiguïtés
Cette ambiguïté... ambiguïté, j'ai joué bien sûr, et il y a plusieurs fois que j'étais à la scène avec mes collègues féminins qui ont chanté aussi des rôles masculins à côté de moi ou comme ça, donc ça c'est partout dans l'opéra baroque, mais je crois que c'est pas un phénomène de la musique baroque ou de cet temps. Je crois que les gens ont été beaucoup plus décontractés de la question sexuelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus définitifs à ça. Qu'est-ce qu'il définir un homme ou qu'est-ce que définir une femme. Donc, pour nous aujourd'hui, je crois que c'est plus ambigu que dans le XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais en tout cas,
justement,
ce programme...
Vous parliez de la difficulté à trouver des airs pour deux contre-ténors, mais là aussi, ça a dû être assez difficile de faire un programme.
Oui, parce que Nathalie et moi, c'est encore la même tessiture.
Oui.
C'est ça. C'est comme vous demandez deux ténors ou deux sopranos de trouver les duetti pour eux. Vous trouverez peut-être deux, trois, quatre choses, mais après, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est la même chose là aussi, parce que avec Nathalie et moi, il faut trouver une répertoire. Où est-ce que ça va pour notre tessiture, et en même temps, où est-ce que l'idée de la programmation est aussi logique? En tout cas, cette question de castratos et les divas et toute cette histoire aussi.
Et justement, ça aboutit à quoi comme programme? Est-ce que vous pouvez dévoiler un peu?
Non, pas encore. Et ça, c'est le problème, parce que j'ai reçu les emails la semaine dernière avec une proposition de Nathalie, qu'est-ce qu'on peut chanter? Mais j'ai répondu que je n'arrive pas de chanter ça ou ça ou ça ou ça, parce que c'est trop aigu pour moi, ou c'est trop grave, ou je ne sais pas quoi. Donc, on travaille encore, mais je ne suis pas qu'on arrivera en novembre.
On aura la réponse sur ce programme le 17 novembre à la Cité de la Musique.
Voilà.
On parlait d'ambiguïté, il y a un tabou que vous avez fait sauter d'une certaine manière, c'est celui de la musique de Rossini. Vous avez osé enregistrer tout un album consacré à la musique de Rossini, alors que Rossini n'a écrit pratiquement que pour des contraltos féminins,
ouais.
À part un opéra pour un castrat.
Ouais.
Qu'est-ce que vous vouliez prouver avec ça?
Rien. Je ne crois pas que c'était la question de prouver quelque chose, c'était seulement... J'ai seulement suivi, selon la tradition qui était dans ce temps, de simplement d'avoir les rôles dans l'opéra seria du 19e siècle chantés par un homme ou par une femme. Et parce que dans cette période de Rossini, il n'y a eu pas beaucoup de castrats.
Oui.
On a commencé d'engager plus en plus les femmes mezzo-soprano de chanter les rôles masculins. Et c'était quelque chose aussi très normal aussi dans le temps de baroque, du 17e et 18e siècle. On a engagé beaucoup de fois des femmes qui ont été les célèbres mezzo-sopranistes ou altistes, qu'elles ont chanté beaucoup de rôles dans les opéras de Handel, par exemple. Radamisto, la première version, était écrite pour une femme. Et aussi Sesto, et aussi, par exemple, Gernando, Don Faramondo.
Midoro dans Orlando aussi.
Oui, donc ce n'était pas parce que Handel a, ou les autres compositeurs, ils sont expressivement voulu d'avoir une femme qui doit le chanter, mais c'était simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de payer un autre castrat. Oui, un autre castrat dans une haute qualité n'était pas disponible. Donc on a demandé à une femme de chanter les rôles masculins. Et c'était la même manière avec Rossini. On n'a eu pas suffisamment de castrats. Bon, c'était une femme qui le chantait. Donc c'était pas du tout une tradition ou une question de
Genre.
oui, de mettre des choses en place et de
Oui.
dire cette rôle, il faut qu'il ait chanté par un femme ou cette rôle, il faut qu'il ait chanté par un homme. C'était, voilà, par hasard.
Mais ce disque montre aussi les énormes progrès qu'a fait la voix de contre-ténor depuis que Alfred Deller l'a redécouverte. Je veux dire, il n'aurait pas été possible pour un contre-ténor il y a 30 ans d'enregistrer du Rossini, tout simplement pour des questions techniques. Alors, comment est-ce que vous avez développé votre voix? Vous étiez sopraniste, vous avez arrêté pendant quelques années, vous êtes revenu à un registre plus grave mezzo-soprano. Comment est-ce que vous avez développé cette voix qui est très belle cantiste finalement?
Ben, moi, j'ai commencé de chanter très, très jeune et la technique vocale est presque toute ma vie. C'est mon obsession. C'est quelque chose avec qui je me lève et avec quelque chose avec qui je me couche. C'est la technique vocale, c'est une histoire de ma vie. Et je ne crois pas qu'on peut répondre à cette question vraiment. Parce que c'est trop compliqué. Mon approche de tout ça, c'était toujours d'essayer toujours d'être respectueux par rapport de mon corps et par rapport de ça, qu'est-ce que je peux faire et par rapport de ça, qu'est-ce que je peux pas faire. Et là, je crois que c'est énormément important pour les artistes vocaux de toujours écouter dans soi-même et de se dire. Est-ce que je me sens vraiment bien à ça que ce que je fais? Ou est-ce que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je ne peux pas le faire, hein? Parce que beaucoup de fois, les chanteurs, ils font une très grande erreur de tomber amoureux avec une rôle ou avec quelques musiques. Et ils essayent de se stresser, de chanter quelque chose à quoi ils ne sont pas vraiment capables de faire. Et après, il se casse la voix, des choses commencent d'être moins en moins beaux. Et moi, j'étais toujours très attentif à ça parce que j'ai fait cette erreur comme j'étais très jeune. Je me suis cassé la voix deux fois, trois fois parce que j'ai essayé de chanter quelque chose qui n'était pas bien pour moi. Et après, j'ai pris cette histoire comme quelque chose qui m'aide encore dans ma vie de toujours dire à moi-même, ok, répertoire Farinelli, ça c'est très beau, mais je ne peux pas le chanter parce que c'est pas mon type de voix. Point. Et même si beaucoup de fois des gens viennent à moi, ils me demandent, mais tu pourrais chanter Farinelli? Et je réponds chaque fois, non, je ne peux pas parce que c'est pas mon type de voix. Peut-être il y a des autres qui pourraient le faire. Et je le respecte et je l'admire. Et Rossini est aussi évolué après 3-4 ans. Je me suis pas levé un jour et j'ai dit, oh, maintenant je vais chanter Rossini. C'était vraiment quelque chose qui est venu peu à peu. Et quand j'ai eu suffisamment de répertoire, j'ai décidé de le faire parce que j'ai croyé en ce temps que c'était bien pour moi et mon voix. Et même aujourd'hui, c'est très drôle. J'ai fermé le festival de Dubrovnik cette année avec des airs de Donizetti, Bellini et Rossini. Et j'ai eu pas plus que 3 jours de faire les répétitions. Et j'ai pas chanté Rossini pour un an. Mais après 2 jours de répétition, techniquement, tout est revenu. Comme j'ai jamais chanté quelque chose, rien d'autre que Rossini tout le temps, parce que c'est maintenant dans mon corps, c'est vraiment dedans. J'ai aussi trouvé de nouvelles qualités cette année dans mon interprétation de Tancrède, par exemple. J'ai trouvé de nouvelles couleurs, de nouvelles expressions. Et ça, c'est bon, parce que ça, c'est quelque chose qui fait la technique vocale. Si on continue de travailler dans soi-même, on vieillesse avec son technique, avec son programme dans une manière saine. Cet équilibre est très important pour moi comme artiste.
On va écouter un extrait de cet album consacré à Rossini. C'est ce fameux opéra, ce rôle d'Arzace dans Aureliano in Palmira, composé par Rossini pour le castrat Velluti. C'est l'air Perché mai le luci a primo, accompagné par l'orchestre de chambre de Genève sous la direction de Michael Hofstetter. Un extrait de Aureliano in Palmira de Rossini avec le contre-ténor Max Emmanuel Sencic et l'orchestre de chambre de Genève sous la direction de Michael Hofstetter. Alors Rossini, ça montre aussi que vous n'aimez pas vous cantonner à la musique baroque. Vous vous êtes fait une spécialité de rôle d'opérette aussi, comme Oreste dans La Belle Hélène, et puis surtout le prince Orlovski dans La Chauve-souris de Johann Strauss, que vous allez reprendre d'ailleurs à l'Opéra de Nancy pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui vous attire dans l'opérette ?
C'est la joie de chanter, parce que là, il n'y a pas des histoires tristes. C'est différent. Et là, j'ai la possibilité de me décontracter un petit peu à la scène. Ça fait du bien.
Et justement, il y a des compositeurs aussi qui écrivent, des compositeurs contemporains qui écrivent pour des contre-ténors. Vous avez participé à la création de Médéa de Harry-Pierre Reimann. Vous voyez vraiment des possibilités d'avenir là-dedans, ou même d'élargir votre répertoire. Il y a des contre-ténors qui chantent de la mélodie, éventuellement faire ouais. du lead, etc. C'est quelque chose qui...
Ouais, moi, j'ai vécu en fait avec lead. J'ai commencé ma carrière avec lead. Mmh. Avec 15, 16 et 17 ans, j'ai enregistré plusieurs des disques avec Mahler, avec Schubert, mmh. avec Schumann et tout ça. Donc, même la mélodie française n'est pas... complètement inconnu pour moi comme interprète, mais la musique contemporaine, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai chanté Britten et un peu quelque chose contemporain, mais pas vraiment de grand chose. Et Harry-Pierre Reimann, c'était vraiment la première rôle un peu plus grand contemporaine que j'ai fait dans ma vie. Mais c'était une rôle super dramatique, super difficile. J'étais dans la scène pour 20 minutes, j'ai crié comme un fou. Je crois que je vais le laisser maintenant pour quelques temps. Parce que il me semble que c'est mieux que j'attende quand je serai 50, 60 ans. Et après, je peux encore commencer de crier un peu à la scène. ça va tenir, ça va être mon retraite. J'ai toujours vu dans le théâtre comme enfant les vieux chanteurs. Ils ont réussi comme les grandes interprètes de la musique contemporaine. Ils n'ont pas eu de voix, mais la présence à la scène et l'expérience. Et voilà, c'est ça. Donc, et c'est presque ça qu'est-ce qu'on cherche de la musique contemporaine. On ne cherche pas vraiment des beaux voix. On cherche l'expression, on cherche des acteurs dans la scène et tout ça. Donc, je crois qu'en ce moment, mon voix est encore un peu fraîche. Donc, je vais profiter de cette fraîcheur de faire des programmes que je ne pourrais pas faire après plus.
En attendant la retraite, le plus tard possible, j'espère, on vous retrouve en France tout au long de la saison. Alors, le prochain concert, c'est ce duo attendu avec la contralto Nathalie Stutzmann et son ensemble Orfeo 55, programme qui sera créé à la Cité de la Musique le 17 novembre à Paris et qui sera ensuite donné à Metz le 12 janvier. Entre-temps, vous aurez chanté le prince Orlovski à Nancy dans La Chauve-souris, une production mise en scène par Philippe Himmelmann et dirigée par Patrick Davin. Ça, c'est du 18 au 31 décembre. Vous serez aussi, après Ottone du couronnement de Poppée, là vous chantez Nerone sous la direction d'Emmanuel Laïm et dans une mise en scène de Jean-François Civadier à l'Opéra de Lille. Du 12 au 22 mars, puis à l'Opéra de Dijon les 1er et 3 avril. Et puis Farnace va vous occuper pas mal durant cette saison à Lausanne le 11 décembre, au Théâtre des Champs-Élysées le 10 janvier, et ça c'est en version de concert. Et puis le clou de la saison, ce sera la version scénique présentée à l'Opéra du Rhin dans une mise en scène de Lucinda Childs et sous la direction toujours de Diego Fasolis. Du 18 au 26 mai à Strasbourg et les 8 et 10 juin à Mulhouse. Il y a évidemment vos disques que je rappelle, Farnace de Vivaldi dans la version de 1738, dirigée par Diego Fasolis avec I Barocchisti, Ezio de Gluck avec Alan Curtis et Il Complesso Barocco et les Duetti avec les comptables de chambre, avec Philippe Jarouski et donc vous, Max-Emmanuel Sencic, sous la direction de William Christie. Merci d'avoir été avec nous,
Maxime Anesencic.
On vous écoute dans Farnach et le rôle-titre, c'est le premier air, c'est le versant plus héroïque. Ricordati che sei regina, madre e sposa, accompagné par Diego Fasolis et ses barocchisti. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.